La famille en mutation, tu parles d'une expression, c'est celle qu'a employée à maintes reprises hier le Comité consultatif national d'éthique dans ses préconisations en vue d'une révision de la loi, sur la PMA notamment, mais pas seulement. Et ce qui est en mutation, faut quand même le rappeler, c'est pas tant la famille que le mot famille, tel qu'on l'entend familièrement, suivant un certain nombre de traditions culturelles, politiques, sociales, juridiques, religieuses, anthropologiques, en France. Ce mot famille qui renverrait à un modèle, vous savez, intouchable et sacré, le fameux modèle familial qui est un repère pour certains, mais qui n'existe pas vraiment. Et quand j'entends hurler au loup ce matin à la déconstruction de la famille, le tout petit linguiste en moi voudrait se réjouir parce qu'on a tout à gagner à déconstruire, c'est-à-dire à interroger ce mot « famille » qui a fini par devenir un cliché à force de lui faire dire le normal et le normé. Je pense à ces mots de Lévi-Strauss dans Le regard éloigné, ce texte passionnant sur la famille, le mariage et la parenté, quand il dit on aurait tort d'aborder l'étude de la famille dans un esprit dogmatique. À chaque instant, l'objet qu'on croyait saisir se dérobe. Ce texte qui a 35 ans, qui s'appuie sur ce qui fait famille au pluriel dans une multitude de sociétés, dans le monde entier, ce texte ne cesse de nous rappeler que le terme si familier de famille, il faut toujours l'interroger.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est très famille, comme en témoigne L'amour flou, son premier film en tant que réalisatrice co-réalisé avec Philippe Rebaud, qui partage un peu beaucoup, passionnément, de sa vie. Enfin, c'est compliqué. Ça sort dans 2 semaines, c'est déjanté, jouissif. Ça pose pas mal de bonnes questions de société et de cinéma. Bonjour Romane Boringer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous, une famille ?
La famille, ça a été une quête sans arrêt dans ma vie, c'est vrai, je viens de gens assez déracinés. Ma mère est née au Vietnam, elle a été abandonnée, adoptée, mon père a vécu sans ses parents. Et puis moi, j'ai cherché ma famille tout le temps. La famille, elle est large, elle est vaste pour moi.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Dans quel type de famille est-ce que vous avez vécu, somme toute ?
Je suis d'une famille recomposée, réadoptée, réinterrogée, comme vous dites tout le temps, réenracinée. Enfin, ma famille, elle a toujours été de sang, mais de cœur aussi, de passage. Enfin, mais ma famille, ça a été aussi mon travail, les gens que j'ai rencontrés, les tournages. C'était des grandes familles. Enfin, je n'ai eu de cesse que de reconstituer des familles. Donc, autant vous dire que ça me touche ce que vous avez lu et que c'est important pour moi.
Et la famille que vous avez fondée, Romane Boringer, comment est-ce que vous la voyez ?
La famille que j'ai fondée, c'est, comme beaucoup de gens, c'est sans doute la chose la plus gracieuse, la plus précieuse à mes yeux. J'ai tellement voulu être... on parle des enfants, hein, c'est ça ?
De tout ?
Ouais, mais j'ai tellement voulu longtemps être maman. J'ai tellement rêvé ça que quand c'est arrivé, quand j'ai trouvé le papa de mes enfants, ça a été magique. Et donc, ça a guidé ma vie. Et aujourd'hui, ça a guidé l'écriture de notre film.
C'est une famille d'artistes ?
Oh non, ça c'est même trop. Non, c'est une famille de saltimbanques, de saltimbanques.
Ce qui est passionnant en tout cas, et on en a la confirmation avec votre film, c'est que la famille est plus que jamais un enjeu contemporain. On l'a vu au moment du mariage pour tous, on le voit aujourd'hui au sujet de la PMA, de la GPA aussi. Pourquoi est-ce que la famille pose autant de questions aujourd'hui, pour vous, à votre avis ?
Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le dernier des repères, le radeau auquel on s'accroche, je suis certain, il doit être... je sais pas, hein, oui, c'est ça. C'est ce qu'on a de plus proche, c'est ce qu'on a de plus... ce qu'on nous retirera en dernier, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça...
En tout cas, vous la réinventez dans ce film, ça c'est certain. Vous avez même créé un concept qui s'appelle le sépartement. Alors qu'est-ce que c'est un sépartement ? Faut nous expliquer.
Alors le sépartement, donc... Philippe Rebaud et moi, nous étions deux amoureux qui avions fait 2 enfants, et puis nous avons cessé d'être amoureux, mais nous étions encore amoureux de ces enfants. Donc comment nous séparer, nous, sans nous séparer de nos enfants ? On a donc inventé, créé ce sépartement. Donc c'est 2 appartements reliés viscéralement, intimement, ombilicalement par la chambre de nos enfants. 2 appartements, au milieu un couloir ou un sas dans lequel se trouve la chambre des enfants. À droite, ils ont l'appartement de leur papa et à gauche, ils ont l'appartement de leur maman.
J'espère, Romane Boranger, que vous en avez parlé au ministre du Logement. Si c'est pas
on
déjà
y croit
fait,
mort. Vous savez que moi...
Jacques Mézard nous écoute.
Philippe m'appelle le Stéphane Plaza du cinéma. Parce que moi, je crois que ce concept, s'il était le sépartement, donc si on vendait des sépartements déjà dans des immeubles, les gens passeraient par-dessus la case engueulade parce qu'ils seraient directement mus par la joie de ce nouveau projet.
Donc ça marche.
Ah ben nous, chez nous, c'est hyper gracieux, c'est formidable. C'est des matins d'une gaieté folle. On est là, autour d'eux.
Fais attention, Romane, c'est pas un sas, hein, parce que je vous ai entendu
dire. Non, non, moi je le dis avec précaution,
j'aime pas tellement. C'est pas un sas.
C'est marrant parce que je le voyais plus petit, moi, le sas.
Tu le quoi?
Le sas, là, cet espace-là. Je le voyais plus petit.
Comment t'appelles ça?
Enfin, un sas.
Le sas? Tu vas pas appeler ça un sas?
Bah, je sais pas comment t'appelles ça.
Bah, un couloir, hein.
Enfin, excuse-moi, un couloir, c'est un endroit où tu fais un pas pour aller d'un endroit à l'autre, ça s'appelle un sas. Tu vois, j'ai fait ça, hop, ça y est, c'est pas un couloir. Un couloir, tu coules, là, on coule pas, Enfin, on s'en fout, de toute façon, on appelle ça comme tu veux, couloir, un sas.
On s'en fout pas, c'est dégueulasse comme mot, un sas. Tu peux pas dire à tes enfants qu'ils habitent dans un sas, c'est un couloir,
c'est dingue que tu me prennes la tête avec des trucs pareils. Tu sais quoi, ce mur, il vient dire ça. Il vient dire, on n'est plus ensemble, donc tu t'occupes pas de mon vocabulaire, tu t'occupes pas de mes cheveux, tu t'occupes de mes dents, tu t'occupes des enfants et moi aussi.
Attends,
okay,
tu veux que je te trouve la définition du sas? Tu veux
non,
que je
ça
te
va,
dise...
ouais, ouais.
Attends, je cherche.
Oui, oh non, mais tu vas pas me dire la définition du sas, c'est dingue, c'est
sas. Là, compartiment fermé par des portes étanches permettant le passage entre un milieu clos et l'extérieur, en particulier dans un sous-marin, un vaisseau spatial, un laboratoire bactériologique. C'est sympa comme mot? C'est ignoble, c'est dégueulasse.
Excuse-moi, c'est parce qu'ils savaient pas qu'il y avait des appartements pour gens séparés. Sinon, ils auraient mis sas d'appartements séparés aussi de gens séparés, j'en sais rien.
Tu peux pas dire c'est beau, c'est joli, c'est émouvant, non. Un sas, c'est le sas, quoi.
Cet extrait de L'amour flou, votre film co-réalisé, co-écrit avec Philippe Rebaud, qu'on entend aussi Romane Boranger, ce projet de sépartement, il vous est arrivé de penser qu'il verrait jamais le jour?
Non. Non, à partir du moment où on a trouvé la lumière là-dedans, c'est-à-dire que nous, on était comme un couple empêtré, on habitait encore dans notre maison. C'était très douloureux pour moi d'imaginer séparer ce quatuor. Quand on a trouvé cette histoire de sépartement, quand on a trouvé, hein, c'est un type qui nous a aidé, un promoteur immobilier qui nous a aidé à construire ce truc. Tout est devenu joie en fait, c'est-à-dire que tout ce qui était un peu lourd, tout ce qui était un peu sombre dans l'horizon, quoi, tout s'est débouché, quoi. C'était gai, c'était déménager mais ensemble, c'était faire ses cartons mais pas tout à fait loin de l'autre. C'était voilà, il y avait un projet. Moi, ce qui me manque, enfin voilà, le projet de la rupture, pour moi, c'est un projet trop lourd. Là, il y avait un projet de continuer.
Et à quel moment est-ce que le film naît justement?
Dans un éclat de rire autour d'une cheminée, quand on se met à raconter à des gens. On va faire ça. Alors les gens, certains très sceptiques, d'autres émus aux larmes. C'est formidable pour les enfants. D'autres disent non mais non, c'est complètement fou. Ils vont rien comprendre. Les anecdotes surgissent. Mais comment vous allez refaire votre vie? Donc là, Philippe qui est très drôle, très spirituel, se met à faire des blagues. Ça, dans un éclat de rire, quelqu'un dit non mais c'est dingo votre histoire. Faut en faire un film. Et j'ai un petit cheval qui s'est mis à galoper là. J'étais sûr, j'ai eu une intime conviction qu'il y avait une histoire.
Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est votre premier long métrage,
ouais,
en réalité.
Mais voilà, il a fallu cette histoire-là. Moi, je suis féru de comédies sentimentales, de films ou des comédies italiennes où on rit, on pleure. J'ai eu l'impression, il y a eu un petit dédoublement de personnalité parce que j'y ai vu des personnages. J'ai vu ce couple, alors c'était nous, mais je l'ai tout de suite vu en fiction, même si on s'est appuyé sur notre déménagement, nos travaux, si tout ça était ancré dans la réalité. J'ai vu d'autres couples, d'autres histoires, des intervenants, des acteurs qu'on aime, nos familles, enfin, je sais pas, une espèce de... Et le film a été écrit en toute liberté.
En fait, c'est beaucoup moins flou que fou.
Ouais, ouais, le projet était fou, franchement. Mais... on a eu une liberté folle, les gens qui nous ont produits, nous ont laissé complètement aller avec l'écriture qui se faisait en même temps que la vie avançait. Les acteurs nous ont dit oui, nos familles nous ont dit oui. Il y a eu une espèce de truc magique qui s'est déroulé sous le projet jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à ce que le film là soit distribué pour sortir en salle. Les planètes se sont alignées au-dessus de nos têtes, je dois dire.
Ça me fait penser aussi qu'il y en a une qui est complètement folle dans cette émission. Qui dit oui tout le temps et qui est complètement folle. Vous la connaissez sans doute,
oui, bien sûr.
Bah, c'est la culture. Et son actualité à mettre en cellule d'isolement, Fissa et que ça saute. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 26 septembre? « La migration n'est un mal que dans les sociétés qui tournent le dos au partage. 150 personnalités dont vous, Romane Boringer, mais aussi Robert Guédiguian, Josiane Balasco, Christophe Honoré signent aujourd'hui un manifeste pour l'accueil des migrants, rédigé à l'initiative des rédactions de Regards, Politis et Mediapart. Le texte rappelle que la liberté de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les immigrés sont des droits fondamentaux de l'humanité. On fait tourner.
Pour cette année, la 18e édition des correspondances, on a quarantaine d'auteurs invités.
Plus cool, la scène Les Correspondances de Manosque, rendez-vous incontournable de la littérature sur les planches, inaugure aujourd'hui sa 20e édition. Lecture, spectacle, concert littéraire, sieste acoustique, l'événement décloisonne les genres et mêle musique, lettres, performances. On y attend notamment Juliette Armanet, Dominica, Arnaud Bertina, Maëlys de Kerangal, Alain Mabankou ou Alice Zeniter. Que du bonheur!
Ne croyez pas que L'origine du monde de Gustave Courbet ait scandalisé le public de 1866. Durant plus d'un siècle, personne ou presque n'a vu cette toile.
L'origine du monde a désormais un visage. L'identité du modèle du nu mythique de Gustave Courbet vient d'être découverte par hasard. Il s'agit de Constance Quéniaud, une danseuse de l'Opéra de Paris et maîtresse du commanditaire de l'œuvre, le diplomate turco-égyptien Khalil Bey. Alors c'est grâce à la correspondance entre Alexandre Dumas fils et George Sand que l'énigme vieille de 152 ans a été résolue.
Il était tranquille, peinard. Voilà.
Qui l'eût cru? Mercredi en famille, ciné à la quille, aujourd'hui dans les salons se sent bien, avec I Feel Good, la nouvelle farce sociale et farfelue de Carverne et Delépine, avec Jean Dujardin qui était notre invité lundi. On se prosterne devant un peuple et son roi, la fresque historique de Pierre Scheller. Et sinon, on surkiffe Rafiki, la belle idylle entre deux adolescents de Kenyan, signée Wanuri Caillou, censurée dans son pays mais encensée lors du dernier festival de Cannes. Vous pouvez réécouter l'interview qu'on avait faite avec cette réalisatrice à Cannes, en podcast ou sur le site de France Inter. You go girls! Et Romane Boringer, invité de Boomerang ce matin pour L'amour flou, un film qui procède d'une démarche très singulière, très intime, on l'a compris. En vous jetant dans ce projet, à quel film, à quel cinéaste est-ce que vous avez pensé, vous?
On a fait, on s'engueulait pas mal avec Philippe. Philippe avait, alors attends, toute proportion gardée, hein, mais Philippe avait une, évidemment, on a tous, on est baignés par notre passion pour Cazavetz, qui voilà. Donc Philippe voulait faire un film dense, intense, intime, à la Cazavetz. Et moi j'ai dit, mais on va jamais réussir à faire ça, Philippe. Moi j'étais plus du côté des comédies douces amères que j'aime beaucoup de Julie Delpy. Donc on s'est dit qu'on faisait un film à la Delpes entre Delpy et Cazavetz.
C'est voilà, un concept.
Réalisé par Maurice Pala. C'était un peu notre blague tous les matins.
Ah, vous adorez les mots valises, Romane Boringer. C'est ça, entre le sépartement et le...
Ben voilà, c'était le film à la Delpes. Après, on était, on voulait faire un... J'aime pas le mot, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les feel-good movies. Hein. Mm-hmm. Vraiment, on voulait un film qui soit... voilà, qui aille de l'avant, comme ça.
Et qui fasse qu'on se sente bien, une
qu'on
fois l'avoir
vu. Le feel-good movie. Donc, on était entre... Boyzood, vous avez vu ce film qui a été filmé pendant 15 ans, là, sur toute la famille.
En gros, si
là.
Vous voulez garder des amis, il ne faut pas l'appeler Boyzood, mais Boyhood.
Oh, Boyhood, juste, pardon.
Ouais. Non, c'est pas grave, vous en avez perdu quelques-uns.
Boyhood.
Mais vous m'avez gardé.
Little Miss Sunshine. Enfin, attendez, on regardait un peu les... Voilà, on parlait de tout ça.
Jouer son propre rôle, comme vous l'aviez déjà un petit peu fait, d'ailleurs, dans le bal des actrices de Maïwenn. Quelle expérience est-ce que c'est pour la comédienne que vous êtes? Qu'est-ce que ça implique?
Bon, il y a deux trucs. C'est pas le truc le plus agréable. Moi, ce que j'adorais dans L'amour flou, c'est quand d'autres acteurs arrivaient. Et c'était aussi regarder Philippe que je trouve irrésistible. Donc, le film et lui, c'était magique. Moi, bon, ça allait. Non, ce qui était un peu marrant, c'était de m'écrire un peu, mon personnage, comme ça. Cette espèce de Bridget Jones qui se prend des vents.
Ah, c'est comme ça que vous voyez?
Bah non, mais là, en tout cas, dans le film, j'avais envie de m'écrire ce personnage de comédie, de fille. Bon, bah, qui essaye un peu de refaire sa vie vulgairement, comme expression un peu moche, et qui c'est pas facile, quoi. C'est
ça a été un peu libérateur ou pas?
C'était drôle, non mais libérateur non, parce que la vie là, hein, les films sont pas plus forts que la vie, mais c'était drôle, on s'est fait plaisir tout le temps, tout en pensant à l'histoire qu'on racontait, bien sûr, mais voilà, inviter les gens qu'on aime à être dans ce film, dans ce projet unique, hein, qui restera un objet unique. Et puis, voilà, moi je me suis amusée avec moi-même, avec mes propres défauts. On n'a pas eu peur d'aller aussi dans nos travers. Enfin, c'était marrant de s'écrire soi-même.
Ah, vous dites marrant, drôle, mais je suis sûr qu'il y a eu un peu d'angoisse, quoi.
Non.
Non?
Non, je jure. Il y a eu de l'angoisse avant dans notre vie. Avant de transformer tout ça en...
En rire ?
Ah ouais, avant de sublimer tout ça en rigolade et en objet de cinéma, oui, il y a eu de la tristesse, il y a eu... Mais le film, il n'y a pas eu d'angoisse, jamais.
Non.
Non, mais c'est extraordinaire. Je sais qu'on ne revivra pas ça. Jamais, on a avancé au gré de nos envies, c'est quand même extraordinaire.
Ce qu'il faut absolument dire aux auditeurs, c'est que le film est quand même hilarant. Quand est-ce que vous avez su, Roman, que vous étiez drôle ?
Quelle question, je
ah bah
sais
vous
pas.
Me connaissez.
Non mais d'abord j'ai longtemps cru que j'étais incapable d'écrire deux lignes, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis débloquée avec ce film. Alors est-ce que ça a été rendu facile parce que c'est nos personnages, parce que c'est notre histoire? Peut-être pas, parce que j'ai écrit pour les autres aussi dans ce film. Non, je sais pas, quand j'ai su qu'on était drôle. Alors Philippe,
mais vous.
Qu'il soit drôle Philippe, ça, c'est un moment, ça on le sait. Hein, c'est... Moi, je ne sais pas, je... Philippe, il m'appelle Jacqueline Maillan. Hein, donc,
ah, il vous appelle Jacqueline ouais. Maillan, d'accord.
Non, mais je veux dire, dans la vie, j'aime plutôt rire. Hein, voilà, non, moi, je ne sais pas.
Il y a cette scène, par exemple, du vibromasseur dans le film. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, Roman?
Qu'est-ce qui se passe?
Faut nous expliquer, scène qui implique, je le précise, une petite dose de voyeurisme canin.
Oui, canin, notre scène.
Il faut nous expliquer.
Je sais pas, comment vous l'expliqueriez, vous?
C'est une scène de vibromasseur.
Voilà, c'est une femme qui tente de se faire un peu du bien et qui est interrompue par un personnage à quatre pattes.
Non, mais en fait, cette scène, moi, elle me semble extrêmement importante. Parce que j'y ai pas seulement vu une occasion de nous faire rire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu de représentation du désir dans cette scène.
Merci Augustin.
En tant que comédien, en tant que réalisatrice, vous portez un regard sur la manière dont le désir féminin est abordé au cinéma, parce qu'il en est question dans votre film, je trouve.
Ouais, c'est pas faux, merci. C'est des scènes qui ont été discutées, par exemple. On dit, est-ce qu'il faut vraiment laisser ça? Est-ce que c'est...
Ah, c'est vrai?
Ouais, un peu. Non, bah, c'est pas du goût de tout le monde, c'est un peu plus... non, mais c'est vrai, moi j'ai 45 ans, je me sépare du père de mes enfants,
On voit pas ça au cinéma, en fait. On voit pas une scène de masturbation avec un vibromasseur.
C'est vrai ou pas?
D'une femme de 45
ans. Moi, j'étais
assez
fière de la mettre dans mon film.
Ah oui.
Et quand elle a été un peu discutée sur est-ce que c'était de bon goût, j'ai dit, mais oui, carrément. Parce que moi, je suis une femme qui redécouvre aussi la deuxième partie de sa vie après être maman, après ne plus être avec le père de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Qui on rencontre? Qui on rencontre pas? Est-ce que ça va marcher tout de suite? Est-ce qu'on est un peu seul? Est-ce qu'on est bien avec son corps, avec... sous forme de comédie, à plusieurs moments dans le film, c'est vrai. J'avais envie de... Alors, très modestement, à ma manière, en rigolant, mais d'interroger ça, c'est des grands moments de solitude aussi, de dans la vie. On s'interroge vachement sur... Enfin, moi, en tout cas, sur... Putain, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant?
Ça veut dire qu'en tant que réalisatrice, on est investi d'une responsabilité, plus forte peut-être, que quand on est comédienne?
Encore une fois, de manière extrêmement modeste, parce que nous sommes ni sociologues, ni politologues, et qu'on a fait vraiment de manière assez candide ce film. Mais il y a dans ce film, évidemment, beaucoup de choses que Philippe et moi, nous portons en nous. Vous parliez du regard sur la famille. Le film a été écrit pendant les élections, du retour de François Fillon, la manif pour tous. Tout ça a été très présent pendant qu'on tournait ce film. Alors, à notre tout à fait humble et modeste manière, c'était une façon de dire comment nous, on la voit, notre vie tous les matins. Donc oui, c'est pas pareil d'être interprète que d'écrire ses propres scènes, que de savoir qu'est-ce qu'il en restera et quelle identité ça aura, c'est pas du tout pareil. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de nous deux, en tout cas dans ce film, beaucoup de ce qu'on pense, de ce qu'on laisse aussi à nos enfants. C'était un manifeste un peu ce film, évidemment, pour nos enfants. Donc il y a beaucoup de ce qu'on pense de notre société là-dedans.
On va reparler de manifeste et de nous deux. Alors, Roman Boringer, juste après, Moustaki, tiens, dont vous aimez comme moi la chanson Les Amours finissent un jour. Bah, vous l'avez mise dans le film.
Ouais, on a mis tout notre panthéon musical, ces grands chanteurs à voix, à mots.
Vous êtes sur France Inter avec Roman Boringer. Vous écoutez Boomerang.
Les amours finissent un jour. Les amants ne s'aiment qu'un temps. À quoi bon te regretter? Bel amour d'un été, voici déjà venir l'hiver, bientôt le ciel sera couvert de gros nuages plus lourds que notre chagrin d'amour. Les amours finissent un jour. Les amants ne s'aiment qu'un temps. À quoi bon penser à moi? Il y a d'autres que moi pour dire les mots que tu attends, pour t'offrir de nouveaux printemps, pour oublier le passé, pour le faire recommencer. Les amours finissent un jour, les amants ne s'aiment qu'un temps. À quoi bon se déchirer? Pourquoi souffrir ou pleurer? Rien de nouveau sous le soleil, tout est tellement, tellement pareil. Il vaudra mieux désormais oublier comment on s'aimait. Les amours finissent un jour, les amants ne s'aiment qu'un temps. Mais nous deux, c'était différent. On aurait pu s'aimer longtemps, longtemps, longtemps.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Vous savez, comme elle est, on la quitte, on la perd de vue pendant des années, on la retrouve, elle n'a pas changé. Elle a le même œil vif, la même inquiétude, le même air un brin débridé, débordé, un peu maladroit. C'est la bonne copine, la cousine tête bêche, l'ex-belle-sœur adorée qui parvient toujours à illuminer les événements les plus sordides, des enterrements en tout genre, en passant par les communions solennelles, les trajets en voiture partant de canicule, avec son petit t-shirt ce matin un peu remonté. L'amour flou est écrit, avec le mot flou qui est tout flou. Romane Boringer, invitée de Boomerang ce matin pour son film L'amour flou, ce film sur une séparation peu banale où vous et votre ex jouez vos propres rôles et au milieu de la tourmente, il semble que votre personnage trouve une sorte de sas de décompression lorsqu'elle arrive au théâtre pour faire travailler un groupe de chanteurs amateurs. Qu'est-ce qui se passe, Romane, quand vous arrivez dans un théâtre ?
Je voulais absolument que ce soit présent dans le film un tout petit peu. Bah, le théâtre, c'est ma... Je sais pas, c'est mon antre, c'est mon ventre. J'ai l'impression de, j'ai toujours dit que quand j'arrive dans un théâtre, j'ai l'impression d'être c'est bizarre, hein, dans le ventre de ma mère. Non, mais c'est étonnant. C'est
ce qui est intéressant, c'est que vous dites j'ai l'impression d'être dans un ventre, et vous dites en même temps c'est mon ventre.
Non, mais je sais pas, c'est mon endroit, c'est mon endroit. J'aime passionnément être jouer dans un théâtre.
C'est une famille aussi.
Ouais, c'est une famille, c'est une grande fraternité depuis des années avec des gens avec qui je travaille, c'est des troupes, c'est des gens sur scène, c'est des gens dans les coulisses, c'est des gens avec qui on fait les spectacles, c'est tous les soirs recommencer, c'est ma passion.
Hein. Des gens qu'on garde?
Ouais.
Qu'on retrouve, qu'on perd?
Ouais.
Une famille qui se réinvente sans cesse. Quand est-ce que vous avez fait connaissance pour la première fois avec le théâtre?
La première fois, c'est quand j'ai joué avec Brooke, hein, parce que j'avais pas une culture très théâtrale avant.
Irina Brooke.
Non, avec Peter. Avec Peter quand Brooke. J'avais 16 ans, ma première pièce de théâtre, bon, c'est lui, mon premier. Mais il y en a eu 1000 depuis, moins prestigieux, mais tout aussi magnifique, enfin, moins connu que Peter, mais.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes monté sur scène?
J'ai l'impression que mon corps avait trouvé sa place dans la gravité. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais ancré. Ancré. Vraiment. Et je suis beaucoup plus gauche, maladroite dans la vie que sur scène où tout d'un coup, c'est une forme d'agilité qui vient en moi. Je sais pas, il y a un truc, je suis bien.
Cette famille du théâtre, vous diriez qu'elle est plus accueillante que la famille du cinéma?
J'ai l'impression qu'elle est moins soumise aux intempéries. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi, j'ai réussi à développer plus de fidélité, plus de longévité, plus de avec les gens de théâtre, je voilà. Pierre Pradina, c'est avec qui je travaille là sur l'occupation. Daniel Arnaud, c'est mon 9e spectacle avec lui. Oui, j'ai l'impression qu'elle est moins volatile.
Et pourtant, ce film, L'amour flou, vous l'avez fait pour le cinéma.
Ouais.
Oui.
Bah parce que je parle du théâtre comme ça, mais j'ai une adoration pour les objets filmiques. Évidemment, quand il s'agit de d'écrire ce film, je l'imaginais tout de suite pour le grand écran, en plus pas pour le petit. J'ai une adoration pour ça. C'est...
Pourquoi pour la réalité du cinéma, en fait?
Non, bah, la magie des salles. Je suis encore très, je suis à l'ancienne, quoi. La magie. Je suis pas encore tout à fait Netflix et tout ça, moi. Voilà. Je voulais qu'ils sortent au cinéma. Ah oui, je l'ai rêvé pour ça, vraiment.
Et pourtant, moi, j'ai lu. Vous dites souvent qu'au théâtre, vous avez sans cesse l'impression de réapprendre votre métier, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rigoureux qu'au cinéma, que c'est un espace d'humilité, le théâtre. Ouais. Beaucoup plus.
Bah, c'est-à-dire, le théâtre, c'est effacé au moment où vous l'avez fait. Maintenant, vous savez, par exemple, le film, là, on en parle beaucoup, on l'emmène, on le montre, il va être regardé. Enfin, c'est fait. Le théâtre, au moment où c'est fait, ça s'efface. Hein. C'est le supplice, c'est ce petit supplice chinois. Faut tout refaire tout le temps. Et tout le monde s'en fout de savoir que vous étiez bien la veille. Il faut tout refaire, tout réinventer. Il y a une espèce de truc addictif, athlétique, ouais, très modeste et très artisanal qui me rend folle à la fois. Je voudrais dire, vous auriez dû voir comme j'étais bien hier, mais c'est déjà passé.
Et puis c'est un lieu aussi où se déploient les grands textes, le théâtre.
Ouais. Moi j'ai tout appris. Moi je me suis toujours considéré comme assez basique, quoi.
Ça veut dire
basique.
Quoi?
Basique. Bah je sais pas. Je me suis jamais considéré comme une grande intelligence au départ, et j'ai été gratifié par les auteurs que j'ai eu à apprendre. C'est-à-dire que je me sens une meilleure personne depuis que j'ai dit Shakespeare, Hugo, quand je les découvre, Annie, Ernaud, tout ça. Je suis une meilleure femme, une meilleure personne.
Alors ça tiendrait à ça, un grand texte pour vous? Un texte qui vous grandit?
Ouais. Ouais, qui vous éclaire, qui vous grandit, qui vous éclaire, qui vous apprend, qui vous ouvre un peu le...
Par exemple, l'occupation d'Annie Ernaux, puisque vous vous apprêtez à le jouer, ce texte que vous interpréterez bientôt, qu'est-ce qu'il a de grand?
Bah, Annie Ernaux, elle plonge dans l'intime jusqu'à vider l'expérience de... Voilà, elle Annie Ernaux dans l'occupation là présentement, mais j'ai lu tout le reste aussi. Elle va si loin dans l'exploration de qui elle est, de ce qu'elle ressent, qu'elle englobe le reste du monde avec elle et le reste de nos expériences mêlées, et avec le mot à la fois si animal et si chirurgical, elle va tellement décrire, je sais pas, l'infiniment sensoriel, je sais pas, moi elle m'obsède, je suis obsédée par dire son texte, et je me sens profondément ému d'avoir la chance de le faire. Et ben, elle me dit qui je suis quelque part, elle met des mots sur ce que j'ai ressenti, elle me délivre de sensations que je n'avais pas encore identifiées. Donc elle m'apprend, elle m'entraîne et elle m'a vraiment libérée.
On parlait de représentation du féminin tout à l'heure. Là, on est en plein dedans.
Ouais, mais du masculin aussi, elle est étonnante parce qu'en fait, elle saisit tellement l'humain qu'elle emmène les hommes aussi derrière elle. C'est-à-dire que les hommes aussi se sentent hyper concernés, touchés par la manière dont elle décrit ce qui l'habite. Moi, je suis fascinée par cette femme.
J'ai envie de l'entendre, là.
Moi. Oh là là, oui, mais...
Ah voilà, si.
Je suis fascinée et aussi très intimidée par cette femme.
Mais j'ai envie d'entendre son texte.
D'accord.
Vous pouvez nous le dire?
Ouais.
Une partie de son texte, le tout début.
Le tout début de l'occupation.
On y va.
Mon premier geste en m'éveillant était de saisir son sexe, dressé par le sommeil, et de rester ainsi, comme agrippé à une branche. Je pensais, tant que je tiens cela, je ne suis pas perdu dans le monde. Si je réfléchis aujourd'hui à ce que cette phrase signifiait, il me semble que je voulais dire qu'il n'y avait rien d'autre à souhaiter que cela, avoir la main refermée sur le sexe de cet homme. Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste, de tendre la main et de saisir le sexe. Pendant des mois, j'ai vu cette main et j'avais l'impression que c'était la mienne. C'est pourtant moi qui avais quitté W quelques mois auparavant après une relation de 6 ans. Autant par lassitude que par incapacité à échanger ma liberté, regagnée après 18 ans de mariage, pour une vie commune qu'il désirait ardemment depuis le début. On continuait de se téléphoner, on se revoyait de temps en temps. Il m'a appelé un soir, Il m'annonçait qu'il déménageait de son studio. Il allait vivre avec une femme. Il y aurait dorénavant des règles pour se téléphoner, seulement sur son portable, pour se rencontrer, jamais le soir ni le week-end. À la sensation de débâcle qui m'a envahi, j'ai perçu qu'un élément nouveau avait surgi. À partir de ce moment, l'existence de cette autre femme a envahi la mienne. Je n'ai plus pensé qu'à travers elle. Cette femme emplissait ma tête, ma poitrine et mon ventre. Elle m'accompagnait partout, me dictait mes émotions. En même temps, cette présence ininterrompue me faisait vivre intensément. Elle provoquait des mouvements intérieurs que je n'avais jamais connus, déployait en moi une énergie, des ressources d'invention dont je ne me croyais pas capable, me maintenait dans une fiévreuse et constante activité. J'étais, au double sens du terme, occupé.
Vous l'avez souvent été, occupé, Romane Bouranger.
Je l'ai été.
Merci infiniment d'être venu nous rendre visite
Augustin,
ce matin.
Augustin, merci pour votre accueil. Enthousiaste et magnifique.
Je rappelle que L'amour flou, de et avec Philippe Rebaud et vous, mais aussi avec Richard Bouranger, Clémentine Autain, Reda
Kateb. Tous les Bouranger, tous les Rebauds.
C'est vrai, sort dans 2 semaines, vous en sortirez grandi et heureux. Je rappelle aussi que vous serez à partir du 4 octobre au Théâtre de l'Œuvre pour l'Occupation. Ce texte si beau d'Annie Arnaud, et j'espère qu'il tournera, ce texte qu'on vous verra un peu partout, dans la France tout entière, parce que c'était bien de vous entendre ce matin. À 9h, lire Annie Arnaud. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça. I see the kids, them running on by, and that girl in the summer dress with the sunshine smile. Hear the birds, they're whistling in the trees. It's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. Just beginning, I'm breaking free. On the ninth street, with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Reuben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. The busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Jonathan Jeremiah, good day, ça s'appelle. C'est vrai que c'est un bonjour. C'est l'heure de Sonia De Villers, les médias.
Et ça va rester un bonjour, Augustin. Oui, bah, ciao, à demain.
À demain.